Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, animée par l'équipe des Films de la Gorgone. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.lesfilmsdelagorgone.fr. Nos précédentes émissions, déjà diffusées sur cette antenne, sont disponibles sur Deezer, Podcloud et Spotify. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un blog, culture-prohibée.blogspot.fr.
Io tornerò a tormentare, a distruggere, nella notte dei tempi!
Au sommaire aujourd'hui, une émission entièrement consacrée à Mario Bava, avec les auteurs de Mario Bava, le magicien des couleurs, paru aux éditions Lobster Film. Alors ces auteurs donc, à savoir Gérald Duchossois et Romain Van Destichel. Alors j'espère que je dis bien son nom, mais il me corrigera sinon. C'est en leur compagnie que nous reviendrons en détail sur la filmographie de cet immense cinéaste, bientôt mis à l'honneur par ESC dans un coffret Blu-ray regroupant Le Corps et le Fouet de 1963, Une Hache pour la Lune de Miel de 1970 et La Baie Sanglante de 1971. Rappelons que du 3 au 28 juillet, un bel hommage lui a été rendu par la Cinémathèque française et que trois de ses meilleurs longs-métrages, La Ruée des Vikings de 1961, Les Trois Visages de la Peur de 1963 et Six Femmes pour l'Assassin de 1964, sont ressortis en salle en copie neuve durant l'été, donc grâce au distributeur Théâtre du Temple. Pour causer du plus grand cinéaste sans rémasque de tous les temps, eh oui, je suis aujourd'hui accompagné de mon équipe de choc. Hein. Alors là, elle est au complet, l'équipe de choc. Alors il y a Damien Demédi, la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de culture souterraine et oublié. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui peuvent nous entendre.
Également à mes côtés, John Ferret, dit l'homme mystère. Le libraire fou, salut John.
Bonjour à tous et bonjour à toutes.
Et puis enfin, celui que l'on surnomme le loup-garou picard, je veux bien sûr parler de Thomas Roland, qui chaque nuit de pleine lune rédige de sanglants écrits pour la revue Griffe et le site cultureaupoint.com. Salut Thomas.
Salut Jérôme, salut John, salut Damien et bien évidemment bonjour à toutes.
Bonjour Gérald Duchossois et Romain Van Destichel. Donc vous êtes les auteurs de Mario Bava, le magicien des couleurs, qui est paru chez Lobster Édition, enfin Lobster Film Édition. Nous, on a décidé dans cette émission de parler de Mario Bava. Alors on l'a déjà fait en parlant de ci, de là, de quelques films, parce que récemment il a été remis au goût du jour par quelques éditions DVD Blu-ray. Mais là, récemment, quand même, il y a eu un véritable, comment dire, pas engouement, mais en tout cas, il y a eu quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Il y a eu la Cinémathèque, il y a eu des films qui sont ressortis en salle. Il y a le coffret ESC qui arrive bientôt. Et puis, il y a eu votre livre. Qui est arrivé, qui a suivi aussi. Il y avait eu un ouvrage sur lequel avait travaillé Edgar Balzer. Comment vous expliquez-vous que Mario Bava, comme ça, soit un cinéaste qui était quand même. Non pas parce que vous le rappelez dans le livre, il n'était pas méprisé, mais il a été un peu encensé au début, puis rapidement oublié. Et puis aujourd'hui, c'est quand même un cinéaste dont on se rend compte de l'importance, a posteriori.
Oui, il y a un... Romain, vas-y, je t'en prie.
C'était, comme on le dit dans le bouquin, mais comme tout le monde le sait, c'était l'exploitation, certes, mais c'était l'exploitation par un artisan qui savait travailler et puis qui était vraiment un artiste dans son artisanat, si je puis dire. C'est un peu bizarre comme formule. Et en fait, moi, je pense que, au final, sur les années, comme c'était des films qui restaient pas excessivement longtemps à l'affiche et qui avaient une production massive c'est des films qui ont été oubliés, comme pas mal de films. Je pense qu'on va redécouvrir dans les années qui viennent avec les nouveaux supports, y compris tout ce qui est streaming, etc. On va redécouvrir des gens qu'on a oubliés. Donc je pense que c'est des films qui passaient un peu à l'as, qu'un certain public friand de drive-in, de séances de minuit, etc., regardait volontiers. Et que dans ce public, il y a des gens qui, depuis une bonne trentaine d'années, font des films, le genre de films qu'on aime, quoi. Et ça a beaucoup infusé dans leur manière de filmer, dans leur manière d'écrire, quoi. Je pense à Tim Burton, je pense à De Palma, des gens comme ça. L'exemple le plus frappant, c'est quand même Alien, quoi, de Ridley Scott, où on a la trame du film dans la planète des vampires. Y compris certains plans qui sont assez saisissants, d'imitation. Je ne sais pas si on peut dire d'imitation, mais c'est quand même, dans Alien, on retrouve des moments bavards. C'est-à-dire que dans la planète des vampires, c'est quasiment plan par plan, quoi.
Oui, et puis ça a quand même débuté avec la planète des vampires, ce grand revival Bava, justement, avec la ressortie en salle en France, ouais, après le DVD Blu-ray de l'Arabia. Évidemment, la figure médiatique de Nicolas Winding Refn, qui est à la fois un fan, un génie du marketing et aussi un grand réalisateur, enfin ça c'est discutable, enfin nous c'est ce qu'on pense, mais qui du coup a fait la promotion de Mario Bava pour que Bava retrouve une place importante dans le cœur des cinéphiles et des amateurs de cinéma de genre. Et puis il y a aussi, du coup, ça crée tout un engouement de marché. Là, on a vu effectivement EST qui sortait des Blu-ray, donc ça devait être au mois d'avril, je pense. Nous, on fera en même temps qu'une nouvelle signature à Paris, à la boutique Anne Malavida, dans le 18e à Pigalle, on fera en avant-première, on célébrera justement la sortie du coffret de ces trois films. Et donc ça, c'était la première salve, mais on s'aperçoit que en fait, les DVD Blu-ray, même s'ils ont de l'impact, rien ne remplace la force de la salle. Le fait qu'il y ait eu cette rétrospective, Le Magicien des Couleurs, justement, de Théâtre du Temple, et les restaurations, fait que ça prend une ampleur tout autre. Alors évidemment, il y a la Cinémathèque française, ça c'est l'adoubement ultime à la limite, tout comme la projection de l'Institut Lumière où on est allé présenter les films et faire une signature également, où on se rend compte que quand il y a les grandes institutions, quand il y a un distributeur salle, quand il y a une restauration qui est faite par Arrow, donc au Royaume-Uni, le grand éditeur de Blu-ray, qui fait aussi des sorties salles, qui pousse les films parce que c'est vraiment leur cam, si je puis dire. Là, on sent qu'effectivement, il y a une espèce d'effet boule de neige. Et nous, notre but avec le livre, c'était justement d'expliquer Bava à des néophytes. Et puis aussi d'apporter deux, trois petits bonus à ceux qui connaissent Bava, qui connaissent Bava sur leurs doigts, quoi, si je puis dire. Parce qu'il y en a qui connaissent toutes les anecdotes, l'historique complet, les films, ils les ont vus des dizaines de fois. Donc, et ce qu'on voulait vraiment, c'était ça. C'était un petit plus pour ceux qui connaissent Bava. Et puis, pour des jeunes qui découvrent Bava, essayer de les accompagner dans cette découverte et comprendre pourquoi on aime tant ce réalisateur. Et on a vu beaucoup de jeunes lors des signatures et des présentations qu'on a faites jusqu'à présent.
Ouais, c'est vrai, ouais. C'était assez étonnant d'ailleurs. Donc, je me souviens moi d'une étudiante en cinéma. J'espère qu'elle écoute l'émission parce qu'elle se reconnaîtra, qui était super sympa et qui nous a expliqué qu'elle faisait un Master 2, je crois.
Ouais, Master 2, ouais.
Master 2, ouais. Et que son sujet en fait tournait autour des films de cannibales italiens. Et on a eu toute une discussion sur le lien justement entre les films de cannibales italiens, le contexte socio-politique des années 70, début 80 en Italie. Et on se rend compte en fait qu'il y a une nouvelle génération de fans, quoi, qui non seulement sont accros vraiment à l'esthétique de Bava, mais qui reconnaissent aussi un lien avec tout ce qui pouvait se passer dans la société. Comme on dit dans le bouquin, par exemple, sur Diabolique, où c'est un film vraiment générationnel, et c'est un film qui a infusé dans l'inconscient collectif, autant dans la musique que dans la BD, que dans le cinéma, pour donner naissance vraiment à des figures de l'homme masqué, très mystérieux. Voilà, moi ça m'a paru assez saisissant de voir ces jeunes, ouais. Des gens plus jeunes, parce que nous on a, enfin moi j'ai 46 ans, Gérald est un peu plus jeune, et à nos âges, les gens ne connaissaient pas Bava. Nous, on a découvert Bava avec des gens qui nous ont fait découvrir, qui était un petit peu plus vieux que nous. Et maintenant, ceux qui s'y intéressent plus, ça va être des gens qui vont être un petit peu plus jeunes que nous, quoi, la génération d'après. Comme si nous, la génération VHS, on avait été nourris aux films genre, je sais pas moi, les Evil Dead et compagnie, et qu'il avait fallu du temps pour que les films de Bava ou même de Fulci, enfin de gens comme ça, remontent à la surface. Même s'ils n'ont jamais vraiment quitté le monde des fans comme ça de cinéma bis, parce que on regarde par exemple les premiers DVD qui étaient sortis chez MAD, dans les 15 premiers DVD, on va dire, je crois qu'il y en avait genre 6 de Bava. Donc ça veut dire quelque chose, quoi. Je pense que c'est pas anodin de constater ça.
Écoutez Culture Prohibée spécial Mario Bava.
C'est vrai que notre génération, hein, puisque moi j'ai 45 ans, scoop, on a beaucoup découvert aussi Bava par le biais de Jean-Pierre Dionnet. Enfin, faut se dire les choses, qui nous a permis de voir Rabbit Dogs, qu'on espérait de voir, Cagni Arabiati, qu'on espérait voir depuis des années. Et puis, il a concrétisé notre fantasme. Avec lui, c'est devenu réalité. Ouais. C'est marrant parce que du coup, moi, je vais me tourner vers un de mes chroniqueurs parce que j'ai plein de questions à vous poser. Mais on a un jeune, nous, dans l'émission, parce qu'on est une bande de vieux, d'ailleurs partagé sur Winding Refn, hein, il faut dire les choses, moi j'aime beaucoup, j'en connais un à ma gauche qui n'aime pas du tout, et on a un jeune dans l'émission, et lui justement, je pense qu'on lui a peut-être un peu fait découvrir Mario Bava en travaillant sur cette émission.
En effet, je suis totalement un néophyte du réalisateur, et pour le coup j'ai vu mon tout premier film de lui, qui est, attention, j'espère ne pas tromper de film, Les Masques du Démon.
C'est ça,
ouais,
c'est ça.
C'est ça.
Exactement, du coup, je l'ai découvert et tout. Voilà, j'étais assez content. J'étais ravi de voir son travail. Et en fait, du coup, vu que vous parlez de nouvelle génération et tout, je me demandais si pour vous aujourd'hui, il y a un réalisateur qui pourrait être vu comme un héritier de son travail plus que certains films.
Ouais, je pense que Gérald a une idée.
Pour moi, c'est vraiment Nicolas Winding Refn, mais qui tire l'héritage de Bava, il y a une espèce d'héritage en fait dans le. C'est pas véritablement un démarquage de Bava ou une inspiration première évidente. C'est comme s'il avait, évidemment qu'il réfléchit, mais il a réfléchi à ce que Bava peut apporter et il en tire à la fois en termes d'utilisation des couleurs, de narration ou de non-narration, ou alors une narration qui nous entraîne dans une espèce de cinéma réflexif ou de réflexion, une mise en image vraiment très très forte, et où l'impact de l'image nous enferme véritablement dans cet aspect cauchemardesque dont on parle dans le livre, qui pour nous est l'un des traits marquants de Bava. Si on parle du Masque du Démon, par exemple, qui est officiellement son premier film, même si on pourrait revenir dessus pendant 107 ans, parce qu'il y a toujours de grands débats pour savoir s'il a réalisé tel ou tel film avant. Nous, on s'est vraiment basé sur Bava en tant que réalisateur, dont le premier film serait Le Masque du Démon, puisque c'est le film qu'il a signé officiellement seul.
Et pour le film pour lequel on lui a donné officiellement de l'argent, en gros, quoi. Voilà, en disant, voilà, c'est toi ça, qui fais le film.
Et c'est ce que nous avait dit son fils, il a signé le contrat avec marqué réalisateur Mario Bava. Donc voilà, les choses étaient claires et nettes, elles étaient posées en tant que telles. Et il y a une force, par exemple, du noir chez Bava, et tout particulièrement, évidemment, dans le Masque du démon, qui est totalement incroyable. Comme disait Bachelard, le noir est la mère de toutes les couleurs. Pour nous, c'était en fait, c'était une évidence qui donnait dès le départ, de par ce noir très profond, puisque on a la sorcière qui disparaît à l'intérieur du noir, qui est vraiment happée par cette masse visqueuse totalement qui peut paraître improbable à cet endroit-là, en pleine forêt. Enfin bon, évidemment, l'aspect fantastique est très marqué à ce moment-là. Et on avait à la fois un départ dans un fantastique un peu plus classique, hérité de la Hammer, et aussi vraiment un départ dont Bava va se démarquer, parce qu'après il va arriver vers les couleurs qui sont sa marque de fabrique. Et bon, le noir évidemment est une couleur. Et je pense que Winding Refn a vraiment réfléchi à tout ça, cette influence, ce démarquage par rapport au scénario, pour arriver à une espèce d'abstraction, en fait, où la narration n'a plus l'importance capitale qu'elle pouvait avoir. Si on parle de Freda, qui est souvent on parle de Ricardo Freda et de Mario Bava, ou de Mario Bava et Ricardo Freda, Freda avait quand même une façon de narrer les films qui était plus traditionnelle dans ce sens-là. Même si techniquement il était très très fort, il y a quand même des mouvements de caméra chez Freda, mais qui sont à la fois alambiqués, hyper durs techniquement et très très aboutis. Chez Bava, on a aussi des mouvements de caméra très très forts, mais qui nous tirent ailleurs, dans un, ce qu'on a appelé un ailleurs de cinéma. Parce que vraiment, on est dans un monde où on n'est plus vraiment dans la narration, on n'est plus vraiment dans le conte, on n'est plus vraiment dans une histoire. On essaye de passer ailleurs pour que notre cerveau entre dans une autre dimension, si on peut dire. Et chez Winding Refn, on sent quand même cette influence très forte, qui nous pousse à aller vraiment vers un monde cinéma. C'est ce qu'on a vu là dans sa série pour Amazon, là, qu'il a faite dernièrement. Ouais. On joue sur les codes, on a les codes. Bon, il y a aussi une grande influence de Lynch, hein, bien évidemment, tout cet aspect cauchemardesque. On ne pourrait pas aller longtemps de ça, mais il y a quand même une influence de Bava très très forte dans des couleurs qui sont à la fois des couleurs de 13 années 80, qui rappellent Tony Scott, et puis aussi qui rappelle toujours Bava. Enfin, moi, quand je vois ces films, je reviens toujours à ça. Vraiment, il a tiré l'essence de Bava pour arriver à construire son œuvre, et qui n'est pas un démarquage plus immédiat comme avait pu faire Tim Burton il n'y a pas très longtemps, même s'il se base toujours un peu sur lui. Bon, c'est pas comme quand il avait fait
Sleepy Hollow.
Burton, c'est ouais. Beaucoup de la citation.
Oui.
T'as la citation au début de Sleepy Hollow. Je veux dire, voilà. C'est une citation claire. Voilà, c'est le masque du démon dans Sleepy Hollow. C'est vraiment une citation. Mais pour rebondir sur ce que tu dis là concernant Winding Refn, pour moi, le moment Bava entre guillemets, parce qu'on s'est amusé quand on faisait le bouquin, on s'est amusé à recenser un nombre assez considérable de moments Bava dans les films d'autres réalisateurs. Donc ça va de De Palma à Winding Refn, en passant par Tim Burton, Aldo Lado, enfin voilà, un nombre assez considérable, y compris La Dame en Noir, le film avec Daniel Radcliffe. Et donc, je pense, pour moi, le moment Bava le plus important, enfin le plus évident dans l'œuvre de Winding Refn, qui en comporte pas mal, c'est dans Valhalla Rising, quand ils sont sur l'océan. Et où, en fait, on est dans un ailleurs, tu parlais d'ailleurs, et ben on est dans un ailleurs de cauchemar, au sens où on est dans une espèce de réalité alternative. Et en tant que spectateur, on l'accepte parce que ce sont les couleurs, le son également, comme on pouvait avoir dans certains films de Bava, dans Le Corps et le Fouet, par exemple. La conjonction des couleurs complètement surréalistes avec un son lancinant, quelque chose qui revient tout le temps, qui nous emmène ailleurs. On est dans un cauchemar. Et pour moi, c'est le moment le plus Bava dans l'œuvre de Winding Refn.
Ouais, c'est aussi pas étonnant qu'à l'époque, Positif ait fait sa couverture avec le masque du démon, justement, parce que, étant donné que c'était à l'origine une revue très très influencée par le surréalisme, voire surréaliste, enfin bon, ça c'est à débattre, mais bon, et le masque du démon entrait totalement dans cette logique. Oui, il y a une grande touche surréaliste dans ce film, qui est pas, qui après peut changer, peut varier, enfin en tout cas. Qui est variable, mais il y a quand même un héritage aussi de cela. Mais ça vient peut-être aussi à la fois de la culture italienne, à la fois de la culture de Bava, son héritage du cinéma, le fait que il obéissait à certaines directives de production, en tout cas par rapport aux films qu'il devait fournir, parce que c'était ça, signer des contrats, il devait fournir des films, donc il y avait quand même un aspect, à la fin, il fallait que les films soient prêts en temps et en heure. Donc il y avait un aspect très productif dans l'appareil cinéma tel qu'il pouvait être en Italie dans les années de l'après-guerre, enfin juste un petit peu après, à partir de la fin des années 40 jusqu'à la fin des années 70, où vraiment les films devaient sortir quoi qu'il en soit. Et il y avait cette mécanisation du cinéma, d'où sortent de grands auteurs, de grands réalisateurs, et puis après des œuvres plus convenues. Ça, on pourrait en parler pendant très longtemps, mais en tout cas chez Bava, nous, on trouve qu'il y a une force qui s'en dégage, et cet héritage-là nous paraît toujours manifeste, et on voit de plus en plus les réalisateurs qui, à la fois, qui osent le dire, et c'est ça qui est bien chez Mimi Greffen, c'est que pour lui, il n'y a pas de... on sent qu'il ose dire qu'il aime Bava, qu'il aime Tony Scott, donc il y a aussi cette affirmation du cinéma de genre qui prouve qu'il y a une véritable filiation dans ce sens-là, et qui nous tire vers un cinéma qui est à la fois dans les marges, et en même temps, qui a un accès grand public, en tout cas médiatique, qui touche le grand public.
Écoutez Gérald Duchaussois et Romain Van Destichel, auteur de Mario Bava, le magicien des couleurs, au micro de Culture Prohibée.
Et puis, chez Winding Refn, il partage quelque chose avec Mario Bava, c'est-à-dire que c'est Mario Bava, si on prend par exemple un des films là, qui va sortir chez ESC, La Baie Sanglante, c'est un destructeur de genre, quoi. Il prend les genres, il est malaxe, et c'est quelque chose qui est dans le livre, hein, évidemment. Il s'affranchit aussi des règles du récit, et il produit totalement autre chose, en fait, Bava, quoi.
Ouais, moi je trouve que ce que tu dis c'est tout à fait juste, dans la mesure où le récit est vraiment non linéaire, et même quand on a l'impression qu'il l'est, t'as toujours un élément dans l'histoire, dans le déroulement de l'histoire, qui vient te rappeler que non, en fait, il n'est pas. Bon, la Baie Sanglante, c'est une destruction des genres. Alors, effectivement, on est dans la destruction d'un genre, mais finalement dans la création d'un autre, on est dans une espèce de proto-slasher. J'en veux pour preuve le fait que 9 ans plus tard, t'as Vendredi 13 qui reprend quasiment la même trame, quoi, y compris certaines images avec l'assassinat des deux amants, avec la lance plantée dans le lit, etc. Et donc, ouais, je reviens sur cette idée de non-linéarité dans la narration. Et ben, chez Bava, ça fait partie de son, je pense que ça fait partie de son ADN. C'est un peu cliché de dire ça. Ça fait partie de sa manière de fonctionner. Et je pense que c'est quelqu'un qui, avant tout, se basait sur les images, les flashs. Par exemple, l'iconisation immédiate de Barbara Steele dans Le Masque du Démon, quand elle apparaît en tant que princesse Vajda et non pas la sorcière, donc la descendante de la sorcière, avec ces deux Danois là, ou deux Allemands, avec un espèce de contre-jour où on ne sait pas trop si on est dans un décor de studio tellement c'est beau, ou si c'est vraiment les ruines qui ont été filmées juste avant avec le professeur Krovayan et son assistant. C'est incroyable la capacité qu'il avait à faire d'une image une icône tout de suite, quoi. Et Barbara Steele, ça devient l'icône du gothique grâce à cette image, quoi. Et dans la Baie Sanglante, la petite fille, j'ai oublié son prénom, je crois que c'est Antonietta,
Nicoletta Elmi. Nicoletta Elmi, je crois. Elmi.
Voilà, c'est ça. Elmi, merci. Qui jouait aussi qui a joué dans Qui l'a vu mourir d'Aldo Lado, enfin dans pas mal de films. cette gamine, c'est pareil, c'est l'iconisation de l'enfance, mais non pas de l'innocence, de l'enfance en tant qu'image de l'innocence, c'est l'enfance diabolique. Et on retrouve ça pas mal dans le cinéma italien de cette époque-là. Chez Bava, t'as ça dans Opération Peur, après sera repris largement dans le segment de Fellini pour les histoires extraordinaires, là, Toby Dammett. Il y a vraiment cette iconisation tout de suite des personnages. Et en même temps, nous, c'est ce qu'on dit dans le bouquin, ils ne s'intéressaient pas vraiment aux acteurs et aux actrices. Ils les considéraient un petit peu comme des pantins. Donc c'est vraiment leur image, on pense, hein, qui l'intéressait de mettre en avant. Quoi.
Oui, ce qui dégageait en... Allez-y, pardon.
Vas-y.
C'était effectivement ce que dégageaient les actrices et les acteurs. Quand on voit effectivement Barbara Steele, après, elle est passée tout de suite chez Fellini. Elle a joué dans 8 et demi. Et tout de suite, quand on voit 8 et demi et quand on la voit apparaître, c'est fou. On pense à la fois à un personnage qui est tout à fait dans le cadre d'un film de Fellini, donc à la fois avec un visage... qui peut être magnifique comme l'était Mastroianni, et puis en même temps il y a cette chose qui ces grands yeux qui dérangent un peu. Donc c'est très très étonnant de la voir apparaître là à ce moment-là, en plus avec une autre voix du fait du doublage, puisque à l'époque les acteurs étaient post-synchronisés, hein, il n'y avait pas de son direct. Donc du coup c'est très étonnant de la voir apparaître à l'écran avec une autre voix, alors que ça soit la voix française ou italienne, c'est une autre voix. Et donc on voit tout de suite que Bava crée à partir de des personnages comme le disait Romain, des icônes assez fortes, diaboliques. Bon, il existait déjà en BD, mais il a aussi une icône très très forte au cinéma. Et Bava, plus que les genres qui à la fois il va contribuer à créer, comme le giallo, il va contribuer alors je ne sais pas si c'est véritablement créé, mais en tout cas populariser le fantastique à l'italienne, celui qui naît plutôt avec Freda, mais que Bava va contribuer aussi à faire grandir, parce que le masque du démon a eu un succès énorme c'est ce qu'on rappelle dans le livre, à notre grande surprise, alors à la fois aux États-Unis, bon, enfin on le savait déjà, mais quand on a vu les chiffres de fréquentation en Suède, en Finlande, en Allemagne, en Italie, au Japon, on a été vraiment très très surpris par le fait que le film, à l'époque, dans les deux années qui ont suivi, le film a obtenu un succès gigantesque, et qui à la fois est une œuvre très très forte pour Bava, parce que c'est une œuvre de construction, du fantastique à l'italienne, et puis aussi Bava va quand même s'en écarter pour aller vers d'autres genres. Donc oui, il aurait aussi créé le giallo, il aurait aussi, avec Six femmes pour l'assassin, peut-être avant avec La fille qui en savait trop, après le slasher avec La bête sanglante. Donc à chaque fois, on prend des gants, parce que c'est toujours très difficile d'être définitif par rapport à la création d'un genre. C'est-à-dire, le cinéma quand même se nourrit de multiples influences. Il y a toujours des films qui avant posaient certaines bases. Donc disons que oui, Bava a créé des styles, et des genres, pardon, avec du style, mais qu'il a aussi qu'il a aussi permis de les détruire. Hein, comme tu disais tout à l'heure, c'est ça qui est vraiment étonnant chez lui. On a l'impression qu'il y a de la création pour mieux l'éclater. Pour que ça soit diffus, et d'ailleurs ça l'est, puisque ça va après inonder de nombreux autres artistes, à la fois en Italie et aux États-Unis. L'influence de Bava a été très forte, très très vite. Comme tu disais, Romain, Aldo Lado, et aussi, on pense à Fulci assez vite, au niveau des couleurs, des choses qui sont bien marquées. Bon, si on parle d'Argento, alors là on pourra en parler longtemps, parce que lui-même le dit. C'était son père spirituel, et c'est vrai qu'il y a une force. Argento va ailleurs, mais en tout cas, Bava a permis de créer des styles tout en continuant pas systématiquement dedans et dans ces mêmes styles, créant une espèce d'éclatement.
Vous le rappeliez à l'instant par rapport au fait qu'à l'époque, en Italie, d'ailleurs j'aime bien le titre qui est dans le bouquin, on parle de cinéaste en smoking ou en bleu, de travail, même combat, quoi. Il y a une porosité quand même entre le cinéma populaire et le cinéma d'auteur en Italie à l'époque. C'est quelque chose que... qu'on oublie un peu, enfin, on a tendance en France à toujours un peu séparer, il y aurait le cinéma bis, le cinéma plus noble, le cinéma... Mais en fait, ces gens-là cohabitaient, ces artistes-là cohabitaient, oui, travaillaient ensemble. Ouais. C'est particulièrement flagrant dans le cinéma de Bava. D'ailleurs, dans le bouquin, vous parlez d'ultra-cinéma même.
Ce dont tu parles, là, tout de suite, me fait penser à Laura Betti, donc la grande actrice italienne qui a joué avec Marco Bellocchio, enfin des gens comme ça, et qui voulait absolument jouer avec Bava, et qui un jour a eu, pour Théorème, je crois, a eu un prix, donc c'était à Venise, me semble-t-il, je ne vais pas dire de bêtises, parce que j'ai aucune note sous les yeux, là, je ne suis pas chez moi, et est allé voir Bava, enfin, lui a écrit une lettre en disant, voilà, monsieur Bava, bonjour, Laura Beatty, vous devez me connaître, etc. Maintenant, j'ai eu un prix d'interprétation, j'ai joué avec Pasolini. Est-ce que vous allez enfin me faire jouer dans un de vos films ? Donc, c'est une actrice, quand même, une grande actrice. Laura Beatty, pour moi, c'est une des plus grandes actrices de cette époque-là, voire même une des plus grandes actrices italiennes qui ait jamais existé, et qui va voir Mario Bava, qui fait des films d'horreur, des films au titre aussi évocateur que Diabolique ou Le Corps et le Fouet, et qui lui demande de jouer dans un de ses films, et qui finalement jouera dans deux de ses films. C'est elle qui joue l'espèce de voyante complètement allumée, la femme de l'entomologiste dans La Baie Sanglante, et qui joue la femme de John Harrington dans Une Hache pour la Lune de Miel. Voilà. Oui, je pense que la porosité, là, on parle de porosité, là, elle s'exprime clairement. Elle s'exprime clairement aussi, par ce que disait Gérald, Barbara Steele, qui directement, après Bava, va chez Fellini, quoi, dans 8 et demi. Et pour l'ultra-cinéma, je pense que l'ultra-cinéma, en fait, la porosité des genres participe à l'ultra-cinéma. C'est une composante.
Vous écoutez Culture Prohibée, spécial Mario Bava.
Moi, je pense à Alain Delon aussi, quand même, qui tourne Le Professeur avec Valerio Zurlini. Et puis, qui tourne Big Guns. Alors, en français, je crois qu'il y a eu un titre qui s'appelait Les Grands Fusils, mais qui a un peu disparu. Qui a un peu disparu pour revenir au titre Big Guns, qui était, je pense, le titre international de vente. Et c'est quand même étonnant de penser que Alain Delon, qui était quand même une star mondiale, mais vraiment, enfin, ils vendaient les films de Delon étaient vendus dans le monde entier. C'est étonnant de penser que lui-même star et aussi grande star à l'époque passait à la fois d'un auteur qui était plus, un auteur comme Zurlini avec du jazz, avec un grand travail sur les focales, les sentiments, les reflets de l'époque, et puis Big Guns où là on est plus dans je te déchire dans une atmosphère beaucoup plus B, quoi, où on va vraiment à l'essentiel pour un film d'action assez brutal. De décoffrage, quoi, violent. Et c'est quand même très, très surprenant de penser qu'il y avait ce mélange, effectivement, chez les réalisateurs, où ils étaient quand même prêts à tourner avec des stars gigantesques. Donc, ça veut dire qu'on leur confiait les budgets et qu'il y avait aussi des stars qui donnaient leur accord, comme Jean-Louis Trintignant. Enfin, je veux dire, on regarde la carrière de Trintignant en Italie. C'est hallucinant de penser au film qu'il a fait, Il sort Passo, qui est quand même un film assez, un grand classique, célébré, et puis on peut le retrouver dans La Mort a pondu un œuf, quoi. C'est quand même fou de penser ça. Enfin, et Trintignant, c'est quand même un grand acteur. Il a eu, il a été dans une Palme d'Or, dans un Oscar du meilleur film étranger avec Un homme et une femme. Enfin, c'est fou de penser que ces acteurs qui étaient toujours pétris de talent à l'époque, ils n'étaient pas du tout en fin de carrière, tournaient en Italie dans des films à la fois plus conventionnels qui alimentaient le marché, mais d'une manière assez noble, et dans des grands films plus difficiles, plus délicats, qui étaient amenés à devenir des classiques. Donc c'est vraiment étonnant de voir cette porosité chez les acteurs. Et chez les réalisateurs, les réalisateurs, c'est vrai qu'ils sont à la fois plus marqués et aussi plus en demande de techniciens qui, eux, changeaient pas mal de d'une œuvre à l'autre. Quand on pense au chef opérateur, il y a quand même pas mal de chefs op qui ont travaillé sur des œuvres B voire bis et qui à la fois travaillaient pour des grands réalisateurs, pour des œuvres de la Titanus, Galatea, enfin. Il y avait des moyens beaucoup plus élevés, mais qui pour vivre. C'est-à-dire que après, c'est passé dans le monde de l'audiovisuel. C'est-à-dire que ces chefs opérateurs, ces techniciens, ces électriciens, ces chefs décorateurs, ils sont venus travailler à la télévision. Un peu comme nous, on avait la SFP en France, en Italie, ça s'est déplacé vers la télévision parce que c'était là où il y avait l'argent. Et donc ces techniciens de renom sont allés travailler vers la télé, alors qu'à une époque, mais il y avait tellement de salles, il y avait tellement de films. Et il y avait tellement ce marché à alimenter que du coup les techniciens passaient. Et puis quand on va à Cinecittà, il y a encore la grande cantine qui est à côté du studio 5, si je dis pas de bêtises, le grand, celui où était tourné La Planète des Vampires, et que là où Fellini dormait,
et la Dolce Vita.
Mais bon, et la Dolce Vita. Donc c'est fou de penser qu'il y avait cette porosité effectivement à la fois technique, commerciale, et que les réalisateurs se nourrissaient entre eux. Mario Bava était vraiment ami avec Fellini. Ils échangeaient des lettres, ils échangeaient des plans, ils échangeaient des focales. Enfin c'est fou de penser que leur relation elle était forte et les cinémas se nourrissaient. Donc ça c'est assez magique. Et donc tout ça nous amène à dire que on entre effectivement dans un ultra-cinéma où on a une apparition très très forte du pouvoir de l'image qui, pour nous, chez Bava, est manifeste, hein, où on entre dans un aspect cauchemardesque. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que chez Bava, ça ne s'est pas limité uniquement à un seul type de film. C'est-à-dire qu'entre Le Masque du Démon et La Baie Sanglante, on franchit vraiment des caps, à la fois en termes de production, et ça, c'est moins intéressant pour nous, mais surtout en termes de construction d'images, de visuels, de couleurs. Bava vraiment a eu différents styles. Alors, c'est vrai que dans le livre, on a essayé de rendre compte de ça de manière assez, comment dire, pas linéaire, mais un peu explicative. Mais si on avait eu plus de place, c'est vrai qu'on serait entré là-dedans, parce que c'est fou de penser. Romain, pour Kenny Arrivati, c'est complètement dingue, quoi. La réalisation, elle nous scotte, quoi. Enfin, je pense que tu peux en parler mieux que moi, mais là-dessus, on est. Par rapport au Masque du Démon, c'est le jour et la nuit, quoi. Donc,
Kenny Arrivati, c'est. Pour moi, c'est son film le plus abouti techniquement. Parce que ne serait-ce que le fait de filmer quasiment tout le métrage dans la voiture, en donnant de la profondeur vraiment à ses plans, une profondeur incroyable, alors qu'on est dans une toute petite voiture qui sont fermées, et on est dans un milieu clos, donc, et il y a une sorte de claustrophobie qui se dégage et qui augmente au fur et à mesure du film, et en même temps, on sait que on est dans une voiture, il n'y a qu'à ouvrir la porte. Et je pense que ça, moi je parle de mon expérience, moi de cinéphile, cinéphage, dévoreur de VHS et de DVD, de Blu-ray, de films, si vous voulez. Ça, je l'ai très peu ressenti au cinéma. Je l'ai ressenti quand j'étais petit, cette sensation d'enfermement dans Le Secret, le film avec Trintignant, Noiret et Marlène Jobert. Où là, pour le coup, c'était un enfermement plus psychologique, c'est-à-dire que ce film m'a fait peur. Et je l'ai ressenti dans le film de je crois que c'est Cuarón, Les Fils de l'Homme.
Ouais, c'est ça, Alfonso Cuarón.
Voilà, c'est ça. Alors, tout le monde à l'époque a dit « Ouais, c'est incroyable cette manière de filmer dans la voiture, etc. » Mais Baval l'avait fait en 1974. Dès que j'ai vu le film de Cuarón, j'ai immédiatement pensé à Kenny Arrabiati. Alors qu'à l'époque, j'avais vu dans des versions un peu moches, etc. La meilleure version, c'était la version qui était passée sur Canal. Depuis, heureusement, on a des versions nettement meilleures. Mais immédiatement, j'ai pensé à Bava. Et je ne peux pas ne pas penser que le réalisateur des Fils de l'Homme, lui-même, n'ait pas vu le film de Bava. Enfin, pour moi, c'est une citation... consciente ou inconsciente, peu importe. Comme il peut y avoir des citations conscientes ou inconscientes dans les films d'Argento, par exemple, dans les Frissons de l'angoisse. Au début, quand on voit rouler les billes en gros plan là, avec tous les petits objets, les petits artefacts qui représentent l'enfance, etc. C'est-à-dire, ça renvoie à un plan de Cinque Bambole, c'est l'île de l'épouvante, où on voit des grosses boules en verre tomber après un des meurtres. On les voit tomber dans un escalier et conduire dans la salle de bain, dans une immense baignoire, une espèce de jacuzzi, où une des protagonistes s'est a priori suicidée. Il va y avoir le personnage de Michael Caine dans Pulsion, avec son imperméable, son manteau, ses lunettes, etc. C'est l'assassin de Six femmes pour l'assassin, c'est évident. Ça, c'est des citations évidentes.
Mais ce qui m'a toujours étonné, moi, dans toute la filmographie de Bava, autant il a créé un genre, le giallo, il a excellé dans le film gothique, dans le slasher, et bizarrement, son western, c'était pas ça. Alors, je me pose plusieurs questions là-dessus sur son western. Est-ce que c'était un scénario qui n'allait pas? Est-ce qu'il n'avait plus, ou est-ce qu'il n'avait pas d'idées de mise en scène, comme d'éclairage ou de... Je sais pas, je n'arrive pas à retrouver la patte de Bava, et tant il est vrai que ce film-là est un peu le canard boiteux dans sa filmographie. Donc j'aurais bien aimé avoir votre avis.
Je pense qu'il y a plusieurs choses quand même, parce que pour moi, il y a quand même une grande italianité chez Bava. Alors c'est peut-être employer les grands mots, hein, mais... je pense quand même qu'il y a une implication de la culture italienne qui est quand même très forte. À chaque fois, on retrouve le personnage iconique quand même de Barbara Steele. Moi, quand je la vois avec ses deux chiens, je ne peux pas m'empêcher de penser à la Louve romaine, vraiment. Plus on avance dans ces musiques à chaque fois, parce que les musiques italiennes étaient quand même assez marquées, enfin, on retrouve des dominantes vraiment de culture italienne très fortes. Le fait que les personnages parlent jamais la langue, ou alors parlent leur propre langue et du coup soient mélangés avec un doublage italien, dans le meilleur des cas, ou alors français qui n'était pas si mauvais non plus, ou allemand, enfin bref, suivant les pays où on va. À chaque fois, moi, je retrouve cette force vraiment de l'Italie dans l'aspect pictural, dans cette avalanche de couleurs, où vraiment on sent qu'il y a une grande culture derrière, une culture littéraire, visuelle, qui est vraiment marquée. Quand on se balade encore de nos jours dans les rues de Rome, il n'y a plus de cinéma. En revanche, il suffit de lever la tête pour, comme le disait Romain, voir un musée à ciel ouvert. Et vraiment, moi, je trouve que chez Bava, il y a ça. Or, dans les westerns, je pense qu'il n'y a pas... Il n'y a pas d'apport, parce que je pense qu'il ne se connecte pas au western. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai senti.
Vous écoutez Gérald Duchossois et Romain Van Destichel, auteur de Mario Bava, le magicien des couleurs, au micro de Culture Prohibée. Thank you.
c'est vrai qu'on se dit, tiens, pour une fois, Bava, ce grand magicien des couleurs, n'a peut-être pas réussi à trouver quelque chose.
Eh bien, pour compléter ce que disait Gérald et répondre à ta question, ce que nous a dit, il y a une chose que nous a dit Lamberto Bava quand on est allé le rencontrer, c'est que, en gros, il aimait pas le western. Voilà. Alors moi, je pense que c'est pas une explication définitive, mais je pense que ça,
ça
vu le personnage de Mario Bava, qui est quand même quelqu'un d'assez, assez culte, enfin, pas d'assez, de très cultivé, une grande culture classique, qui était quelqu'un qui cherchait constamment la nouveauté. Je pense que, alors, il nous a dit qu'il n'aimait pas ça, point, voilà, on n'en a pas parlé des heures non plus, mais je pense que le fait de ne pas aimer fait qu'il n'a pas vraiment eu d'idée, quoi. Alors que pour certains films où il n'avait pas forcément d'idée au départ, où il a signé un contrat le samedi pour, je pense à L'île de l'épouvante, où il signe le contrat le samedi pour commencer à tourner le lundi, sans avoir lu le scénario, il a vite compris ce que c'était. C'était un whodunit à la, comment, du vinaigre d'Agatha Christie, et il en a fait un espèce de jeu de massacre en détournant complètement le genre. Et je pense que le western, une partie de l'explication, ce serait il aimait pas et il savait pas quoi en faire. Ça rentrait pas dans son cadre.
Comment vous expliquez ça, vous, son obsession pour la jusqu'au bout, jusque même dans sa version de la Vénus d'Hill, même dans Choc qui fait avec Lamberto Bava, il y a Freud quoi tout le temps chez Bava.
Alors,
vas-y, vas-y.
Gérald, ouais. Alors, je pense que, enfin, pour moi, ce qu'il peut y avoir moi, j'ai toujours du mal avec l'interprétation psychanalytique des films, et qu'elle soit freudienne ou autre. En revanche, ce qui nous a sauté aux yeux, c'est que dans les films de Bava, il y a vraiment cette notion d'inquiétante étrangeté, c'est-à-dire quelque chose que tu vas saisir du coin de l'œil, mais que tu vas pas comprendre. Et toute la dimension cauchemardienne, elle est là. On pense qu'elle est vraiment là. C'est-à-dire quelque chose que tu vas pas pouvoir expliquer. Ça va être des couleurs qui sont pas naturelles. Ça va être un son qui a rien à faire là, comme dans Le corps et le fouet. Donc tu parlais de... Alors là, pour le coup, Le corps et le fouet, si tu veux parler de Freud, je pense que là, on pourrait faire une émission de 4 heures. Et cette dimension de Unheimlich, donc inquiétante étrangeté, c'est ce qui ressort, je pense, le plus.
Il y avait aussi le fait que nous, on s'est basé sur ce qui avait déjà été fait avant. Et évidemment, il y avait déjà beaucoup d'interprétations psychanalytiques de Bava qui allaient beaucoup dans ce sens-là. Or, on s'est dit que si on avait envie de pouvoir apporter deux, trois bonus à la façon dont on voyait Bava, on allait prendre un chemin un petit peu différent et du coup pas rester focalisé sur cette lecture psychanalytique de Mario Bava. C'est vrai qu'on se pose les mêmes questions. Alors du coup on a demandé à Lamberto Bava, parce qu'on était quand même là-dessus, on lui a dit mais est-ce qu'il lisait Freud, est-ce qu'il y avait quand même une véritable conscience de ça, parce que c'est manifeste dans les films, on peut pas lutter contre, et on les voit tout de suite, on pense à ça, il suffit de, si on a lu un peu Freud, effectivement ça saute aux yeux. Et il nous a dit oui, mais pas tant que ça, c'était pas son obsession. Et du coup nous on est plutôt entré dans le, enfin on lui a posé des questions aussi par rapport à la religion, parce que c'est vrai que ça il y a une grande discussion par rapport à ça. Et pour nous, chez Bava, il y a une absence de Dieu qui est assez manifeste. On n'a pas l'impression qu'il s'empare de des codes religieux assez classiques. On ne voit pas des croix partout. Quand là, en ce moment, nous, on est en train de travailler sur Lucio Fulci, il y a certains films, à certains moments, on voit des croix qui apparaissent. Elles sont au mur, elles sont flagrantes. On ne peut pas s'empêcher de voir que oui, il y a Dieu qui est là. Chez Bava, on ne voyait pas Dieu. Cet aspect freudien nous a semblé... on pensait plus à Nietzsche, pour le coup, qu'à Freud. Mais après, oui, comme le disait Romain, l'inquiétante étrangeté était manifeste, quoi. Ce qu'on n'arrive pas à expliquer, ce qui comble nos rêves, ce qui nous projette dans le cauchemar, c'était plus ça. Mais c'est sûr qu'effectivement, quand on voit les films... Le rapport sexuel non accompli qui sont quand même manifestes, cette frustration j'allais dire claustrophobique, mais c'est encore plus fort que ça. Enfin, il y a quand même un non accomplissement des rapports sexuels. Alors pour moi, ça va aussi avec l'époque, c'est-à-dire qu'on est dans le dans le dans les dans le début des années 60 jusqu'à Diabolique. Et comme par hasard, Diabolique, c'est 68. Et là, on a une scène de sexe au début du film qui est quand même très, très à la fois sensuelle et marquée. Et chez Bava, c'est assez rare. Donc il y a quand même une pleine réalisation de l'époque. À chaque fois, c'est ça qui nous a surpris, c'est qu'on a l'impression que ces films ne sont pas aussi ancrés dans l'époque que ça, qu'ils ne parlent pas tellement de ce qu'a pu vivre l'Italie ou tout du moins l'Europe ou les pays occidentaux du début des années 60, mais on retrouve quand même des choses qui sont assez marquées par rapport à ça. Et moi, je le vois plus comme une grande frustration du début des années 60 jusqu'à ce que la pilule arrive un peu partout, même illégalement, hein, parce qu'en Italie, je ne pense pas que la pilule en 68 ait été autorisée aussi tôt. Je pense que ça a dû venir un petit peu plus tard. Et je vois plus ça comme ça. C'est vraiment cette frustration et qui, du coup, se manifeste par le meurtre. Les strangulations, il y a quand même des choses assez gratuites. Si on parle de 6 femmes pour l'assassin, bon, quand une des mannequins se fait brûler le visage avec une violence très très forte, quoi, avec que du rouge, le jaune qui arrive, l'orange qui se dessine un peu sur son visage, on a quand même à la fois quelque chose de très iconique et puis de complètement violent et qui est un mariage vraiment forcé, quoi, pour le coup. C'est l'accomplissement sexuel ne marche pas, et ben du coup il passe par la violence. En tout cas, c'est plutôt comme ça que je vois. Mais effectivement, oui, c'est assez freudien.
Mon ami Thomas n'a même pas pu dire une bêtise comme il le fait habituellement dans chaque émission.
Ah, dommage. Bava a beaucoup d'humour, donc on peut quand même pas mal se marrer autour des films.
Je me demande s'il avait rencontré Nicolas Winding Refn, s'il avait réagi comme Friedkin devant quand Winding Refn lui a dit je suis vous quand vous étiez plus jeune.
Ah oui, c'était ce moment grandiose.
Ça aurait été rigolo quand même. Hein.
Oui, effectivement, qui est au millième degré, que Winding Refn pense sûrement à ce moment-là et qu'il pense pas qui veut quand même penser. je bosse avec un classique, c'est au Festival Lumière. Je me suis occupé de Friedkin les deux fois et Friedkin m'a parlé de ce moment et il a halluciné. Il m'a dit non, c'était un gentil garçon, mais maintenant je comprends pas ce qu'il veut. Je lui ai dit oh non, mais je pense que c'était une blague quand il vous a dit ça. Il m'a dit oh, je crois pas. Donc c'est vraiment étonnant. Après, je pense que Bava l'aurait pris plus à la rigolade. Enfin, je sais pas, je peux pas être à sa place, mais prendre tout ça au sérieux, je suis pas sûr que ça aurait été sa priorité. Tout cas, c'est pas l'impression que son fils nous donnait en discutant avec lui, où il prenait quand même. Je pense qu'il était très sérieux, parce qu'arriver à monter des films aussi aboutis en aussi peu de temps avec aussi peu de budget, je pense qu'il faut quand même être bien motivé. Enfin, on a tous vu des films italiens de la même époque qui sont vraiment nuls, quoi, fait avec 3 francs 6 sous et où on n'a pas des œuvres qui du coup resteront ou nous marqueront autant la rétine, quoi. Donc je pense que Bava, sous ses airs de grand rigolard, avait quand même des obsessions qui manifestaient une grande connaissance technique et une véritable vision d'auteur, quoi.
Ah bah je pense que là, bon, de toute façon c'est dit dans le livre, hein. Il faisait tout, les storyboards, enfin c'est son fils qui le dit, il choisissait les caméras, les objectifs, tout. Donc
c'est,
oui, bah voilà, c'est
complet, quoi.
C'est un génie,
c'est ça,
quoi.
Qui est assez, voilà, assez dingue, hein. C'est ça qui est fou, quoi. Hormis cette direction d'acteur qui est parfois fluctuante, franchement, au niveau de la mise en image, du scénario, production, enfin tout, quoi. La chaîne était celle de Bava, quoi. C'est quand même impressionnant de voir un auteur aussi marqué au cinéma, même si on sait que c'est du cinéma de genre qui peut paraître toujours, qui est toujours diminué, hein, de toute façon, ça, je pense que. Et à la fois, c'est agréable parce que c'est le cinéma des marges et que ça nous fait bien plaisir. En même temps, c'est aussi pour ça qu'on se bat, pour qu'il soit reconnu à sa juste valeur, parce qu'il y a un accomplissement du geste artistique en tant que réalisateur qui va vraiment de A limite jusqu'à Z. Et ça nous semble vraiment éblouissant.
Avant de nous quitter, vous pouvez peut-être nous rappeler, vous avez prochainement une signature de l'ouvrage. Justement, je rappelle Mario Bava, le magicien des couleurs, Gérald Duchossois et Romain Vandestichel, donc chez Lobster. Vous avez une signature bientôt, je crois, pour accompagner la sortie du coffret qui regroupe 3 films chez ESC.
Oui, c'est ça. Alors, on va le 4 octobre à la Boutica de Malavida, donc rue Houdon, dans le 18e à Paris. Le 4 novembre au Vincennes, donc le cinéma Le Vincennes à Vincennes. Le 5 novembre, normalement, si tout va bien, au cinéma de la BD à Angoulême. Et ça doit être le jeudi 21 novembre à la Cinémathèque de Nice pour une soirée Bava.
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone, www.lesfilmsdelagorgone.fr. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.fr. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur Deezer, Podcloud et Spotify. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit la Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demey, dit la bête noire de Compiègne. John Ferret, dit l'homme mystère. Thomas Roland, dit le loup-garou Picard and the Last, but not the least. Je veux bien sûr parler de Léo Manien à la technique. Salut les gens, à la prochaine.
Perché soffrire vuol dire amare sempre te. Un'ore che spenga in me tutto il dolore di questo amore. Un'ore tutto di te, quello che fu con la mia forza. Non vivo più. Non amo più nessuna, nessuna mai potrò più amare dopo te. Voglio morire per non soffrire ancora, perché soffrire vuol dire amare sempre te. Perché soffrire vuol dire amare sempre te. Perché soffrire vuol dire